Moi, je pense que ça ressemble. C'est le dernier jeu du match. À moins qu'il y ait pénalité, là. Je pense pas que les Bombers vont pouvoir faire quoi que ce soit après le retour.
Le ballon va en rester.
Oui. Oh, là. Regarde devant. Quel... Oh, non, non. Hey. Quel botté raté.
Le botté se retrouve, évidemment, qui était à court. Le vent s'est levé.
Ben oui.
Je dirais au cours des 15 dernières secondes. À un moment donné, on voyait rien. Et puis là, les feuilles se sont mises à souffler, à se retrouver partout dans les gradins, sur le terrain.
Le dernier jeu du quatrième quart. Botté de 51 verges. Et c'est...
Wow!
Réussi! Les Blue Bombers quittent Montréal avec une victoire de 28 à 27. Et ils sont sacrés champions de la Division Ouest pour une quatrième saison consécutive.
Et c'est quelque chose comment le match des Alouettes a pris fin samedi après-midi au Percival Molson. Une victoire des Blue Bombers, évidemment aidée et aidée beaucoup par le vent. Renaud Bourbonnais d'RDS, comment vas-tu?
Tony, ça va bien. On a vécu quelque chose samedi que j'avais jamais vécu de ma vie, que personne à qui j'ai parlé, médias, joueurs, entraîneurs, partisans, tout le monde était unanime. On n'avait jamais vu ça avant. On va jamais revoir ça après, ce qui s'est passé dans le match de samedi à la fin du match.
Oui, par contre, si on oublie ça pour un instant, OK? Ouais. C'est une équipe des Alouettes qu'encore une fois, elle avait une avance de 8 points à deux reprises et ils ont fait les Blue Bombers revenir dans le match et ils ont encore une fois donné beaucoup de points puis ils ont encore une fois perdu. Oui, c'est vrai, les Bombers ils ont gagné à cause du vent. Puis si le vent n'est pas là, les Alouettes gagnent ce match-là, je comprends. Es-tu inquiet de qu'est-ce qu'on voit des Alouettes depuis environ plus qu'un mois, là?
Oui, je le suis, particulièrement en attaque. Puis, tu sais, je sais qu'il y a un élément dans ce match-ci particulièrement où on peut dire les Alouettes n'avaient aucun enjeu au classement, comme au cours des dernières semaines, et les Blue Bombers avaient à peu près tout à jouer dans ce match-là, c'est-à-dire qu'en gagnant, ils s'assuraient de finir premier dans l'Ouest, d'accueillir la finale de l'Ouest à Winnipeg, ce qui est énorme, et surtout de ne pas jouer la demi-finale de l'Ouest, donc d'avoir une semaine de congé la semaine prochaine. Donc, c'est sûr qu'il y avait un élément de motivation supérieur chez les Blue Bombers. Ils avaient peut-être plus à gagner. Puis ça, c'est normal d'avoir peut-être un boost d'énergie de plus quand tu as un enjeu dans le match. Ceci étant dit, même si c'est vrai pour les Alouettes qu'on peut dire, ben, tu sais, c'est plus difficile de se motiver quand tu n'as pas d'enjeu. Reste que là, ça veut dire que ça fait un mois que tu joues du football sans enjeu chez les Alouettes parce que ça fait déjà un mois qu'ils sont sûrs de finir premier dans l'Ouest, dans l'Est, pardon. Et je regarde en vis-à-vis l'an dernier, les Argonauts de Toronto qui ont eu la même situation où ils étaient qualifiés d'avance pour les éliminatoires, sûrs de terminer premier dans l'Est, qu'ils ont joué beaucoup de football qui voulait rien dire dans le dernier mois. Puis qu'est-ce qui est arrivé en éliminatoire? Les Alouettes les ont complètement écrasés en finale de l'Est chez eux à Toronto parce que justement, on n'avait pas pu avoir ce football-là compétitif depuis un mois. On était rouillés, si tu veux, du vrai football, du football compétitif, du football d'automne. Puis c'est un peu ce que j'ai l'impression de voir chez les Alouettes depuis un mois. J'ai de la difficulté à blâmer qui que ce soit. Qui serait motivé à jouer des matchs qui veulent rien dire pendant à peu près un mois de temps alors que les autres équipes sont en train de s'entretuer pour des places ou du positionnement au classement?
Je comprends.
Donc oui, ça m'inquiète, oui. Mais je pense qu'il y a des circonstances qui justifient ça.
Oui, mais je comprends, mais on nous dit que la meilleure façon de rentrer dans les séries, c'est sur des victoires consécutives. Puis c'était le cas l'année passée. L'année passée, là, ils ont très bien terminé la saison. Là, ils étaient hot, là.
Exact. L'année dernière, 5 victoires pour terminer la saison. Je me souviens, Darnell Sankey, à la fête du travail, les Alouettes avaient perdu contre Toronto, puis Darnell Sankey était venu voir tout le monde, puis il avait dit « C'est la dernière fois qu'on perd cette saison. Vous allez plus nous voir perdre. » Comme de fait, ils avaient complètement rasé la fin de saison régulière, les éliminatoires, évidemment, gagné la Coupe Grey. Et rappelle-toi, en début de saison, cette année, ils sont partis sur une séquence de victoires aussi. Donc, c'était le genre de fin de saison que les Alouettes avaient besoin. Et je regarde à travers la Ligue en ce moment, c'est le genre de fin de saison que Toronto connaît présentement. Toronto, ils n'avaient pas leur carrière partant de Chad Kelly pour la première moitié de saison parce qu'il était suspendu. Mais depuis qu'il est revenu, il s'améliore à toutes les semaines. Et là, la machine est prête à tout casser. Cette fin de semaine, ils vont recevoir Ottawa à Toronto pour le premier tour. Puis je pense que Toronto a raison d'être un grand favori dans ce match-là.
Je pense que oui. Écoute, quand tu as le luxe que tu peux perdre des matchs puis ça va pas influencer le calendrier, ces choses-là, là, est-ce que ça se peut qu'ils ont perdu quelques matchs parce qu'ils essayaient de faire des choses en vue des séries? Est-ce que tu as vu soit l'attaque ou la défensive faire des choses qu'ils n'avaient pas fait auparavant?
Ben, écoute, la première des choses, c'est qu'on s'est permis de reposer certains joueurs pendant certains matchs. Donc ça, c'est sûr et certain que ça a changé la donne. À un certain point, avant le match en Colombie-Britannique, il y a deux semaines, Cody Fajardo a joué une demi, Davis Alexander a joué une demi. C'est pas qu'on voulait les tester, c'est qu'on voulait protéger Cody Fajardo. On voulait pas qu'il se blesse en deuxième demi. Puis surtout, Fajardo avait raté deux semaines d'entraînement, une à cause d'une semaine de congé, et une aussi parce qu'il a sa femme a donné naissance à un enfant. Qui fait en sorte qu'on ne l'a pas vu en entraînement pendant deux semaines. Donc, c'est normal que lui était un peu rouillé. Moi, je trouve qu'il a été bon contre Winnipeg en fin de semaine, Cody Fajardo. Il n'a pas joué le quatrième quart, justement, parce qu'on voulait le protéger. Mais à son niveau, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Maintenant, sur le terrain, est-ce qu'on a essayé des choses en vue des séries? Non, mais je te dirais que ta question a quand même du sens. Parce qu'on peut le dire, les Alouettes n'ont pas fait des choses parce qu'ils veulent les faire en éliminatoire au football. Tu ne veux pas mettre sur le tape. Je veux pas que les équipes adverses aient du vidéo de tes secrets en vue des éliminatoires. Donc, il y a sûrement certains jeux qu'on a gardés dans le cahier de jeu. Puis dans le dernier mois, on a dit, ben, on va pas sortir ces jeux-là. On les a pas fait de la saison. On veut surprendre à l'éliminatoire avec ces jeux-là. Donc, peut-être qu'on était moins agressif dans le choix des jeux, particulièrement en attaque.
J'ai aimé beaucoup au niveau de l'offensive. Tu sais, Cody Fajardo a manqué ses premières trois touches, mais il s'est repris par la suite. Il me semble qu'il finit 16 en 20 ou quelque chose. Et ça a été très, très bon pour lui. Ils ont marqué deux touchés offensifs. C'est très bon. Et un match net de plus que 300 verges. Ça, c'est bon. J'ai aimé Austin Mack comme receveur de passe. J'ai aimé la ligne à l'offensive. J'ai beaucoup aimé au niveau de l'offensive puis de l'attaque.
Ouais, moi aussi, j'ai aimé ça. Puis sur la ligne à l'attaque, c'était pas facile hein, parce qu'on a eu des blessés, notamment sur le côté droit. Même avant le début de la semaine, bon, Jabbar McGlaster, qui était déjà le deuxième plaqueur à droite, était un cas incertain, s'était blessé à l'entraînement et tout. Donc, je trouve que pour une ligne qui a vécu de l'incertitude pendant une semaine à savoir qui allait être en poste, je trouve qu'on a très, très, très bien fait. Puis, c'était pas une force des Alouettes cette saison, la ligne à l'attaque. Tu as raison de dire que dans ce match-là, ils ont connu une bonne rencontre. Par contre, il va falloir que ça se poursuive en éliminatoire. Puis la ligne défensive des Argonauts, advenant que ce soit Toronto qui vienne à Montréal, bien sûr, elle est dévastatrice. Donc, ça va prendre un gros match, une grosse performance de la ligne à l'attaque en éliminatoire si les Alouettes veulent gagner une deuxième coupe Grey de suite.
Un défaite signée unité spéciale?
Je suis pas prêt à dire ça. Écoute, autant est-ce qu'on peut dire, ah, c'est des excuses, le vent et tout, je vais revenir sur la situation.
Non, mais ils ont donné un gros retour, par contre, aux Bombers.
Oui, t'as raison qu'ils ont donné.
Oui.
Puis, est-ce que c'est entièrement leur faute, la défaite? Je suis pas prêt à dire ça. Ceci étant dit, on sait, c'est le genre de jeu qui donne de l'énergie. Puis, les Alouettes, à un certain point, ils étaient en contrôle du match. Ils auraient pu fermer les livres, puis de donner un positionnement comme celui-là aux Blue Bombers. C'est vrai que ça leur a donné l'occasion de revenir dans le match. Surtout qu'à un certain point, moi, je me préparais pour l'après-match, Tony, puis on était à un certain point en deuxième demi, puis je me disais, ben pour moi, la ligne directrice de l'après-match, c'est que la défense a terminé la saison sans donner dans un match où elle ne donne pas de toucher. Puis finalement, ben elle en a donné deux en deuxième demi, ce qui a complètement changé les plans. Puis les Alouettes ont échappé ce match-là au final, donc ça a complètement changé les plans de l'après-match. Mais tu vois, ce jeu-là, effectivement, a donné de l'énergie aux Blue Bombers. Ceci étant dit, pour dire, les autres unités n'ont pas contribué par la suite à sauver les matchs.
Dans tous les sports, il y a des matchs qui finissent par quelque chose, des fois, incroyable, spécial. Puis, dans le football, c'est toujours le fameux Hail Mary, hein, qui, plus souvent qu'autrement, ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, c'est quelque chose. Puis, ça a fonctionné pour les Commanders face aux Bears. Tout le monde a regardé ça, puis on dit... Comment ça, il se trouve être tout seul dans la zone début, personne. Hey, c'est incroyable que ce que j'ai vu en fin de semaine avec le Hail Mary.
C'était complètement fou, ce jeu-là, Tony. Puis, tu sais, sur le dernier jeu du match, d'un match qui, pour les gens qui l'ont regardé comme moi de A à Z, un match qui était ennuyeux pour la plupart de la rencontre. Les Bears qui marquent avec quelques secondes seulement à faire au match parce que les Bears tiraient de l'arrière.
Oui.
Caleb Williams a mis sur pied une séquence pour faire gagner son équipe. Caleb Williams peut pas être blâmé pour ce qui s'est passé en fin de match. Il n'était pas sur le terrain. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un joueur des Bears en train de narguer la foule de Washington avant que le jeu commence. Le jeu commence. Le ballon se retrouve dans la zone de début après un bond, finalement capté par Noah Brown pour le toucher. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, Tony, c'est que quelques minutes avant le match, on ne savait pas si Jaden Daniels allait jouer à cause de la blessure au côtes qu'il a subi la semaine dernière. finalement, il est de la partie, puis la passe qu'il a lancée en fin de match, là, prends la, toi-même chez toi, là, peut-être pas devant la caméra, mais
ouais.
Le mouvement de lancer une bombe dans la zone début, là, ça force sur les côtes. Donc, je pense qu'il a payé le prix pour lancer cette passe-là. Puis oui, il y a un facteur chance là-dedans, mais les bonnes équipes font leur chance, puis les Commanders sont une bonne équipe cette année. Et pour leur crédibilité, parce que là, oui, c'est une bonne séquence, mais la saison est encore tôt, pour leur crédibilité, ils n'avaient pas le droit d'échapper le match contre les Bears. Il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient une équipe supérieure aux Bears. Donc, est-ce que la chance a été de leur côté?
Ouais.
Oui. Ceci étant dit, c'était important pour eux de gagner. Ils ont passé un message avec cette victoire.
Pour cette raison-là que j'aime le sport tellement. Le gars est incertain à 90 minutes avant le match, blessé aux côtes. Et là, il lance un prière, puis c'est « Écoute, là, c'est, tu pouvais pas écrire un meilleur film que ça, c'est incroyable. » les déboires des Jets, je suis pas surpris, là, un autre match. Ça, c'était « Hey, ils ont perdu un match dans la division qui a fait mal il y a quelques semaines contre les Bills.
Ouais. » Ouais.
Perdre contre les Patriots, là, ça fait plus mal encore. Là.
Ouais, écoute, ça fait 3 semaines de suite hein, contre les Bills, contre les Steelers. Les 2 défaites avaient fait mal. On se disait, ah, ça vient nuire aux chances des Jets et tout. Là, je pense qu'on peut dire carrément que la saison des Jets est terminée.
Mais oui.
C'est humiliant d'avoir perdu contre les Patriots. Non seulement perdu contre les Patriots ont perdu Drake May, puis c'est Jacoby Brissett qui est revenu dans la mêlée pour finir le match, mais en fait pour jouer la majorité du match. Donc, t'as perdu contre Jacoby Brissett.
Ouais.
Écoute, on se demandait si les Jets pouvaient faire des ravages en éliminatoire. La vérité, c'est qu'ils vont même pas passer proche de les faire. C'est un échec total. Ils sont incapables de marquer 30 points dans un match. Puis ça, pour une équipe qui est menée par Aaron Rodgers, puis que toutes les armes que les Jets ont en attaque, c'est inacceptable. Inacceptable.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vu venir la victoire des Browns contre les Ravens de Baltimore. La façon dont les Ravens sont appris depuis quelques semaines, jouer du gros football. Là. Mais Jameis Winston, là, avec plus que 330 verges, là, le match de sa vie, là, c'est incroyable. Là. Il a battu les Ravens à lui seul. Là.
Complètement. Puis tu sais comment Jameis Winston est divertissant dans les conférences de presse. Il a cité Eminem dans sa conférence de presse d'après-match. Que j'invite les gens à aller voir parce que c'était très drôle. Mais écoute, 3 passes de toucher au-dessus de 300 verges. Et surtout, moi, c'est là que ça devient important. À la fin du match, son équipe tirait de l'arrière. Il avait le ballon dans les mains avec l'occasion d'aller gagner le match. Puis il l'a fait. Il a connu tout un match. Puis Jameis Winston, les gens l'oublient souvent, mais c'est un ancien premier choix au total. Ce qui a fait sa réputation dans la NFL pendant ses années avec les Buccaneers, c'est le fait qu'il lançait beaucoup d'interceptions. Il a déjà lancé 30 interceptions dans une saison. Puis finalement, il a été sorti de Tampa Bay parce que Tom Brady est arrivé. Il est devenu un réserviste dans la Ligue. Puis on dirait que tout le monde avait abandonné sur lui. J'ai l'impression que c'est un gars qui est beaucoup apprécié par ses coéquipiers, Jameis Winston, de la façon qu'il est. On le voit en entrevue que c'est un gars extrêmement authentique. Il fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc, je pense que tout le monde dans le vestiaire est extrêmement content pour lui. Puis surtout, ça nous montre à quel point cette équipe-là était mauvaise quand Deshaun Watson était là. Ben on voit qu'il y en a du talent en attaque parce que Jameis Winston a fait avancer le ballon du début à la fin du match contre une bonne défensive, celle des Ravens.
Renaud, dans 1 minute, on a 1 minute pour 2 autres questions. Retour raté pour Tua, que lui et ses Dolphins ont perdu à la maison face aux Cardinals.
Ouais, exact. Écoute, il a bien paru Tua dans ce match-là. Les Dolphins l'ont échappé malheureusement. Cette équipe-là, elle a beaucoup de talent, mais j'ai l'impression que c'est un peu un country club sous Mike McDaniel. J'aime beaucoup cet entraîneur-là comme stratège, mais je pense pas qu'il a l'étoffe d'un entraîneur-chef pour faire le garder le sérieux dans la chambre.
Qui va arrêter les Lions?
Qui va arrêter les Lions? Bonne question. Dans la NFC, en ce moment, j'ai envie de te dire personne. Ceci étant dit, il y a un Super Bowl à gagner contre une équipe AFC. Je suis pas en train de te dire que les Lions vont automatiquement aller au Super Bowl. Ils sont jamais allés au Super Bowl d'ailleurs. Mais pour moi, c'est l'équipe de l'heure dans la NFC.
L'équipe de l'heure, là, c'est comme 4 touchés par match. C'est facile pour eux autres.
Ouais.
Là, 28, 38, 48, 50 points. Là. Écoute, il va falloir marquer des points maudits. Tu peux pas jouer un jeu offensif, un jeu d'attaque contre eux autres. Tu n'as pas de chance, là.
Non, tu peux pas gagner dans un trailer offensif, ça, t'as absolument raison. C'est une équipe exemple. Les Buccaneers de Tampa Bay qui est entièrement construite sur son attaque ou qui roule présentement complètement sur son attaque, elle pourrait pas passer au travers des Lions, même si elle l'a fait plus tôt cette saison. Une fois en éliminatoire, ce serait pas possible. Écoute, Jared Goff a juste 85 verges par la passe dans ce match-là.
Oui.
C'est que les Titans ont tellement donné le ballon dans des bonnes positions aux Lions que Détroit a même pas eu à traverser le terrain. Le jeu au sol est ultra efficace. C'est la meilleure attaque de la Ligue présentement. Et dans la NFC, c'est absolument la meilleure équipe.
Toujours un plaisir de parler football avec toi, mon ami. Merci beaucoup, Renaud Bourbonnais de RDS.
Merci beaucoup, Tony.